Chapitre 40. Frères du loup. Les ravisseurs d'Elaine fixaient Birgit, l'air de ne pas en croire leurs yeux. Elaine saisit cette occasion pour rouler sur le côté. Ensuite, elle se mit à genoux. Sa grossesse la rendait maladroite, mais dans son état normal, elle était plutôt douée, physiquement parlant. Le médaillon qu'avait utilisé Mélard pour la bloquer glissa sur le sol, et elle put aussitôt s'unir à la source. Soutenant son ventre, elle s'emplit de pouvoir. Un instant, les bébés s'agitèrent frénétiquement. Prête à tout pour les préserver, Elaine parvint à repousser ses ravisseurs. Renversant les soldats comme des quilles, les gardes de la reine ne tardèrent pas à arriver. Quelques-uns se pétrifièrent dès qu'ils aperçurent Birgit.
« Continuez à vous battre, tas de fils et de filles de chèvres !»
brailla Birgit, en décochant quelques flèches sur les mercenaires de feu Mellar.
« Je suis morte, d'accord ! Mais je reste votre fichu commandant, et vous allez m'obéir !»
Cette harangue mit les gardes en mouvement. La brume blanche continua à monter, formant un rideau devant le champ de bataille. Dans la nuit, elle semblait briller faiblement. Très vite, les tissages d'Elaine, l'arc de Birgit et l'ardeur des gardes eurent convaincu les sbires de Mélard d'aller voir ailleurs s'ils y étaient. L'archère en tua 6 tandis qu'ils s'enfuyaient.
« Birgit !»
dit Elaine, les larmes aux yeux.
« Je suis désolé. »
« De quoi ? Pourquoi te lamentes-tu, Elaine ? Tout m'est revenu. J'ai récupéré mes souvenirs. C'est merveilleux. Je me demande comment tu as pu me supporter ces dernières semaines. Je pleurnichais comme un gosse qui a cassé son arc favori.
Je... lumière. »
À l'intérieur, Elaine souffrait toujours d'avoir perdu sa championne, et la douleur d'un lien brisé n'avait rien de rationnel. Que Birgit se tienne devant elle ne changeait pas le fond du problème.
« Je devrais peut-être te lier à nouveau.
Ça ne fonctionnerait pas. »
fit l'archère avec un vague geste de la main.
« Es-tu blessé ?»«
Non, à part dans ma fierté. »«
Tant mieux pour toi. Tu as eu de la chance que quelqu'un souffle dans le corps au bon moment. »
Elaine acquiesça.
« Bon, »
reprit Birgit.
« Je vais rejoindre les autres héros. Toi, tu restes ici et tu récupères. »«
Que la lumière brûle toutes ces âneries !»
explosa Elaine. Tant bien que mal, elle réussit à se lever.
« Terminez le temps où je restais à l'arrière. Les bébés vont bien. Je viens avec toi. »
Elaine, mes hommes me croient morte. Nos lignes se décomposent et nos soldats meurent. Pour reprendre espoir, mes gars ont besoin de me voir. Eux, ils ne sauront pas ce que signifie cette brume. Si une reine leur a jamais servi à quelque chose, c'est bien aujourd'hui. À part le ténébreux en personne, et encore, nul ne m'empêchera de les rejoindre.
Birgit plissa le front.
Tu n'es plus ma championne, mais tu restes mon amie. Chevaucheras-tu avec moi?
Tête de mule!
C'est moi qui ai refusé de rester morte? Alors, on est ensemble?
Ensemble, oui.
Avienda s'arrêta net et tendit l'oreille. Ces cris-là ne ressemblaient pas à ceux des loups. Dans la fosse de la perdition, quelqu'un canalisait le pouvoir, mais comparé à la purification du Saïdin, c'était trop doux et fort peu spectaculaire. Mais comment allait Randaltor? Et que se passait-il là-bas? Les nuages blancs apportés par les régentes des vents se mêlaient au noir et, avec eux, dessinaient dans le ciel d'étranges motifs bicolores. D'après ce que la jeune matriarche savait des régentes, actuellement regroupées sur une saillie rocheuse du mont Chayolgoul, bien au-dessus de la grotte où elles utilisaient toujours la coupe des vents, elles n'étaient pas loin du point de rupture. Deux tiers d'entre elles au moins s'étaient évanouies, vaincues par l'épuisement. Bientôt, la tempête dominerait tout. Avienda avança dans le brouillard, en quête de la source des cris. À présent que Rafaela était allée rejoindre les derniers fidèles du dragon pour défendre le chemin qui menait à la grotte, elle n'avait plus personne avec qui se lier. Dans la vallée, des gens continuaient à se massacrer, l'avantage passant des uns aux autres en un clin d'œil. Des promises, des matriarches, des siswayamans, des trolloques et des blafards. Sans oublier les loups, car des centaines étaient venus participer à la bataille. Il y avait aussi des domani, des défenseurs théariens et quelques fidèles du dragon qui ne s'occupaient pas de protéger l'accès à la fosse. Quelque chose heurta le sol près d'Avienda, et une mélopée s'éleva aussitôt. Sans hésiter, la jeune Aïel carbonisa le dracar, qui se consuma comme du petit bois séché au soleil pendant 100 jours. Elle inspira à fond, puis regarda autour d'elle. Des cris de loups. Par centaines, voire par milliers. Au pas de course, Avienda fonça jusqu'à l'endroit d'où il semblait monter. Soudain, quelqu'un émergea des ombres, un homme mince avec une barbe grise et des yeux jaunes. Une petite meute de loups l'accompagnait. Après avoir observé l'Aïel, les animaux regardèrent dans la direction où ils entendaient aller. Avienda s'immobilisa, des yeux jaunes.
« Hé, toi qui cours avec les loups !»
lança-t-elle à l'homme.
« Perrina Ibarra est-il avec toi ?
L'inconnu se pétrifia. Il agissait exactement comme un loup, prudent mais très dangereux.
« Je connais Perrina Ibarra, » répondit-il, « mais il n'est pas avec moi. Il chasse sur un autre terrain. »
Avienda approcha de l'homme. Il la regarda, méfiant, et plusieurs de ses compagnons grognèrent. À première vue, il ne se fiait pas plus aux humains qu'aux trolloques.
« Ces nouveaux cris ?»
demanda Avienda.
« Ce sont ceux de tes... amis ?»«
Non, » répondit l'inconnu aux yeux jaunes. « Non, plus maintenant. Aïel, si tu connais des femmes qui savent canaliser, tu devrais aller les chercher. »
L'homme s'enfuit en direction des cris et sa meute le suivit. Avienda lui emboîta le pas, restant à distance des loups, mais se fiant à leur sens encore plus qu'au sien. Très vite, la petite colonne atteignit la butte d'où Iturald avait à un moment dirigé la défense du défilé. À présent, des silhouettes sombres se déversaient du passage. Des loups noirs, de la taille d'un petit cheval, qui sautaient sur la roche plus qu'ils n'y marchaient. Même s'ils étaient très loin, Avienda eut la certitude que leurs pattes faisaient fondre la pierre et y imprimaient une longue série d'empreintes. Des centaines de loups normaux attaquèrent les créatures, leur sautant sur le dos. Mais ils se firent très vite déloger, et leur intervention ne parut pas très utile. L'homme aux yeux jaunes grogna.
« Des chiens des ténèbres ?»
cria Avienda.
« Oui !»
répondit l'inconnu, sa voix puissante couvrant le vacarme de la tempête.
« C'est la horde sauvage, les pires tueurs d'entre nous. Sur eux, les armes n'ont aucun effet. Et les morsures des loups ne leur font rien, juste un peu mal sur le cou. »«
Alors pourquoi les attaquer ?»
Le frère du loup éclata de rire.
« Pourquoi nous battons-nous, tous autant que nous sommes ?» Parce qu'il nous faut essayer de gagner, d'une façon ou d'une autre. Va chercher des Aes Sedai ou des Achamans si tu en trouves. Sinon, ces monstres submergeront tes soldats aussi aisément qu'une vague roule sur des galets. »
L'homme dévala la pente, les loups dans son sillage. Avienda comprenait pourquoi ils luttaient. Même s'ils étaient incapables de tuer les chiens des ténèbres, ils les ralentissaient. Et c'était déjà une grande victoire, parce que ça fournissait à rendre le temps dont il avait besoin. Avienda pivota sur elle-même et s'enfuit en quête de sœur ou de matriarche. Sentant que quelqu'un maniait le Saïdar avec une grande puissance, elle s'arrêta net et chercha à situer l'endroit où ça se passait. Grindal n'était pas loin, juste devant elle, mais à peine visible. Presque nonchalante, elle bombardait de tissage mortel une rangée de défenseurs de la pierre. Avec elle, elle avait une poignée de femmes, des Aes Sedai et des matriarches, et quelques soldats. Agenouillées autour d'elle, les femmes l'alimentaient en puissance. Sinon, elle n'aurait pas pu déchaîner une telle violence. Les soldats, c'étaient quatre voiles rouges, dont certains sous coercition. Avienda hésita, un frisson glacé courant le long de sa colonne vertébrale. Et les chiens des ténèbres dans tout ça? Je dois prendre le risque. Elle canalisa, propulsant dans le ciel un rayon de lumière bleue, le signe qu'elle avait imaginé avec Amis et Katswane. Bien entendu, cette manifestation alerta Grindal. Se tournant vers Avienda, elle lui décocha un tissage de feu. La jeune matriarche esquiva la lance mortelle. Aussitôt, un bouclier tenta de la couper de la source, mais elle se gorgea de pouvoir jusqu'à la limite de ses capacités, avec l'aide de la broche en forme de tortue, bien entendu. Isolée, une femme de la source avec un bouclier revenait à essayer de couper une corde avec une paire de ciseaux. Plus la corde était épaisse, et moins ça se révélait facile. Dans le cas présent, Avienda maniait assez de pouvoir pour neutraliser le bouclier. Les dents serrées, elle se lança dans des tissages. N'ayant pas mesuré à quel point elle était fatiguée, elle faillit lâcher les flux et les laisser échapper à son contrôle. De justesse, elle les maintint par la seule force de sa volonté, puis lança un tissage d'air et de feu, et tant pis si, parmi les femmes prisonnières de Grindal, beaucoup étaient des amis ou des alliés. Elles préféreront sûrement mourir qu'être utilisées par les ténèbres. Au dernier moment, Avienda esquiva une autre attaque. Le sol explosa là où elle se tenait, et l'onde de choc la fit tomber.
« Non !»
pensa-t-elle en se réceptionnant.
« Ne cesse pas de bouger !»
Se relevant d'un bond, elle se mit à courir. Un réflexe qui lui sauva la vie, car des éclairs s'abattirent à l'endroit où elle se tenait 10 secondes plus tôt. Là aussi, l'onde de choc l'envoya au tapis. Elle se remit debout, un bras en sang, et tissa plusieurs ripostes. Hélas, elle dut les lâcher quand des flux complexes fondirent sur elle. Une coercition. Si elle se laissait prendre, elle deviendrait une des complices involontaires de la rejetée, contrainte de lui offrir son pouvoir afin qu'elle puisse nuire encore plus à la lumière. Avienda tissa de la terre directement dans le sol, provoquant un jaillissement d'éclats de roches, de poussière et de fumée. Puis elle roula sur le côté, en quête d'une ravine ou au moins d'une crevasse. Retenant son souffle, elle ne canalisa plus. Les vents violents dissipèrent la diversion qu'elle avait générée. Au milieu de son cercle, Grendel hésita. Avienda, ayant créé autour d'elle un tissage qui masquait son aptitude à manier le pouvoir, la rejetée était dans l'incapacité de la repérer. Si elle canalisait, ça changerait. Mais jusque-là, elle serait en sécurité. Les voiles rouges avancèrent en quête de leur proie. Avienda fut tentée de canaliser pour mettre un terme à leur existence. Tous les aïels qu'elle connaissait l'en auraient remercié dans des circonstances pareilles. Elle se retint, refusant de trahir sa position. Grendel était bien trop forte pour qu'elle l'affronte seule. Mais si elle patientait... Un tissage d'air et d'esprit attaqua Grendel, tentant de la couper de la source. Furieuse, la rejetée riposta. Katswane et Amys venaient d'arriver.
« Tenez bon, au nom d'Andorre et de la reine !»
Elaine galopait au milieu d'une formation de piquiers sur le point de se débander. Ses cheveux flottant au vent, sa voix amplifiée par le pouvoir, elle brandissait une épée, la lumière seule sachant ce qui arriverait si elle devait s'en servir. Des hommes se retournaient sur son passage, certains se faisant tuer par des trolloques pour ce moment d'inattention. Les monstres s'engouffraient dans toutes les brèches, s'éparpillaient parmi les piquiers et perpétraient un massacre.
« Mes hommes sont au bout du rouleau !»
pensa Elaine.
« Lumière, mes pauvres soldats !»
Ce qu'elle avait devant les yeux était un océan de désespoir et de mort. Après avoir subi des pertes épouvantables, les compagnies de piquiers d'Andorre et du Cairienne avaient rompu les rangs. Désormais, les soldats fuyaient à toutes jambes, ou résistaient par petits groupes, sans cohésion, et simplement pour sauver leur peau.
« Regroupez-vous !»
cria Elaine.
« Tous avec votre reine !»
Des hommes cessèrent de courir, mais ils ne revinrent pas en première ligne. Que faire dans ces conditions ? Se battre. Elaine attaqua un trolloc avec son épée, même si quelques instants plus tôt, elle doutait de savoir s'en servir. Eh bien, elle avait eu raison. Le monstre à tête de sanglier parut surpris de l'avoir gesticulé ainsi. Par bonheur, Birgit logea une flèche dans l'avant-bras du trolloc, juste avant qu'il abatte sa hache sur la jeune reine. Toujours vivante, celle-ci décida de ne pas laisser l'archère tuer la créature. Empruntée à un de ses gardes, sa monture se chargea d'empêcher le trolloc de la tailler en pièces, pendant qu'elle tentait de l'embrocher. Quoi qu'elle fasse, sa lame n'allait jamais dans la direction qu'elle souhaitait. Décidément, le pouvoir de l'unique était une arme bien plus sophistiquée. S'il le fallait, elle y aurait recours, mais pour l'instant, elle préférait ferrailler. Elle n'eut pas besoin de se ridiculiser longtemps. Des soldats accoururent, abattirent Ur de sanglier et s'occupèrent des quatre autres monstres qui s'étaient mis en tête d'attaquer leur reine. Elaine s'essuya le front d'un revers de la main et fit reculer sa monture.
« Qu'est-ce que c'était encore ?»
demanda Birgit, tout en décochant une flèche sur un monstre, l'empêchant de tuer un des soldats.
« Par les ongles de Ratliff, petite ! Avec toi, je croyais avoir tout vu en matière d'idiotie, mais tu n'as pas de limite !»
Elaine leva son épée. Partout, des hommes lancèrent des vivates et crièrent
« La reine est vivante ! Pour la lumière et pour Andorre, tous avec elle !»
« Si tu étais en train de fuir, qu'éprouverais-tu en voyant ta reine essayer de tuer un trolloc avec une épée qu'elle manie comme une fourchette à escargot ? J'aurais une furieuse envie d'aller dans un autre pays !»
fit Birgit, en lâchant une autre flèche.
« Par exemple, un royaume où le souverain n'a pas de la sauce blanche à la place du cerveau !»
Elaine haussa les épaules. Quoi que raconte Birgit, sa manœuvre avait fonctionné. Comme un morceau de pain trempé dans du lait, la force qu'elle avait recomposée grossissait sans cesse et commençait à ressembler à une première ligne digne de ce nom. Épée toujours levée, Elaine continua à donner de la voix. Puis, après une courte hésitation, elle fit apparaître dans l'air un majestueux étendard d'Andorre qui semblait flotter au vent, le lion blanc défiant la nuit. Une cible pour des Mandred et ses aïades. Eh bien, tant pis. Les hommes avaient besoin d'un phare au milieu de ce cyclone. Quant au tissage, elle les dévirait à mesure qu'ils arriveraient. S'ils arrivaient. Car rien ne se produisit tandis qu'elle passait ses hommes en revue et les haranguait.
« Pour la lumière et pour Andorre, votre reine est vivante. Résistez! Battez-vous !»
À la tête de ce qui restait d'une gigantesque armée, Matt fonçait vers le sud-ouest du plateau. Devant lui, sur sa gauche, se dressaient les trolloques. Les chariens, eux, l'attendaient sur sa droite. Avec lui, il avait les héros, les frontaliers, Carédé et ses gardes de la mort, les augiers, les archers de Dorivière, les gardes-ailés de Mayenne, les lanciers du Géaldan, des mercenaires, et enfin Tina, avec ses réfugiés enrôlés dans les fidèles du dragon. Cerise sur le gâteau, la compagnie de la main rouge était là aussi. Sega à lui. Dans les souvenirs qui ne lui appartenaient pas, il se rappelait avoir mené au combat des forces bien plus importantes. Des armées qui n'étaient pas faites de briques et de brocs, partiellement entraînés et vidés de leur énergie par les pires combats de l'histoire. Mais que la lumière leur en soit témoin, ils n'avaient jamais été si fiers de ses troupes. Malgré une série de désastres, ses soldats avaient répondu à son cri et foncé sur l'ennemi avec une vigueur renouvelée. La mort de Daemon Dread laissait une chance au jeune flambeur. Prenant le pouls de la charge, il fut ravi de reconnaître le rythme instinctif de la guerre. Depuis le début, c'était ce moment qu'il cherchait. La carte sur laquelle il allait tout miser. Avec une cote de 10 contre 1, certes, mais les chariens, les trollocs et les blafards n'avaient plus de chef. Aucun général pour les guider. Du coup, les unités prenaient des initiatives contradictoires, sous les ordres d'une pléthore de Myrdraal et de seigneurs de la terreur. Il faudra garder un œil sur les chariens. Eux, ils ont des généraux qui pourraient redresser la situation. Pour l'heure, Matt devait taper fort et dur. L'objectif, c'était de chasser l'ennemi du plateau. En bas, les trollocs tenaient toujours le corridor, et les défenseurs, au bord de la rivière, passaient un sale quart d'heure. La mort d'Elaine était une fausse nouvelle. Après avoir perdu un tiers de ses effectifs, son armée avait failli lâcher prise, mais elle était réapparue, lui redonnant du cœur au ventre. Depuis, ses soldats résistaient, même s'ils devaient reculer régulièrement. Avec ou sans Elaine, cependant, il ne pourrait plus tenir très longtemps. Les piquiers menaçaient de céder face au nombre. Des hommes tombaient sur toute la ligne de front, et la cavalerie, avec l'aide des aïels, peinait de plus en plus à contenir les poussées adverses. « Si je réussis à forcer nos adversaires à dévaler le versant, il y aura une bousculade. Monstre contre combattant du même camp. »«
Seigneur Cotton !»
cria Tina. Perchée sur son cheval, elle désigna le sud avec la pointe rouge de sang de sa lance. En direction du fleuve Erinin, on distinguait des lumières. Matt plissa son œil unique pour mieux voir. Était-ce des portails qui s'ouvraient dans le ciel, oui, et dont émergeaient des thorakens signalés par des lanternes. Une volée de flèches s'abattit sur les trollocs massés dans le corridor. Des archers sur le dos, les thorakens en formation fondirent sur le gué et le passage qui s'étendait derrière. Par-dessus le boucan de la bataille, Matt entendit des sons qui avaient de quoi glacer les sangs de l'armée des ténèbres. Par centaines, par milliers peut-être, des corps sonnaient la charge dans cette nuit de cauchemar. Très vite, des roulements de tambours accompagnèrent cette musique si douce aux oreilles du jeune flambeur. Des bruits de pas et de sabots indiquèrent qu'une armée approchait du plateau de Polov. Par une nuit d'encre, personne ne voyait ses renforts, mais tout un chacun pouvait les entendre arriver. Matt s'autorisa un petit cri de joie. Devant son œil mental, il vit très clairement les prochains mouvements de l'ennemi. Dans ces conditions, prendre les bonnes décisions était un jeu d'enfant. La moitié de ses forces irait soutenir les braves d'Elaine au bord de la rivière Mora. L'objectif? Eh bien, écraser les trollocs qui entendaient s'introduire de force au chiennard. L'autre moitié filerait vers l'ouest, contournerait le marécage et prendrait à revers ces mêmes créatures de ténèbres. Aux volées de flèches vinrent s'ajouter des éclairs qui n'avaient rien de naturel. L'œuvre des Daman, désireuse d'éclairer le terrain pour leurs soldats. Un feu d'artifice dont les illuminateurs auraient été rudement fiers. Tandis que le gros de l'armée du Seanchan traversait le champ de Merilor, la terre trembla sur son passage. Sur le flanc droit de Matt, la foudre se déchaîna soudain. La foudre, vraiment? Non. Talmanès et Aludra. Après avoir réparé les dragons, ils bombardaient l'armée charienne via des portails ouverts dans leur grotte. Les pièces d'artillerie étaient presque toutes en place. Avant le lancer de dé final, cela dit, il restait une tâche importante à accomplir. Matt et ses hommes accélérèrent encore le rythme. Jour Grady laissa courir ses doigts sur la lettre de sa femme, apportée de la tour noire par Androl. En pleine nuit, pas moyen de la relire, mais ce n'était pas un problème, tant qu'il pouvait la tenir. De toute façon, il l'avait apprise par cœur. Posté par Cotton le long de la rivière Mora, à quelques 4 lieues du front, il surveillait un canyon. D'ici, impossible de voir ce qui se passait au champ de Merilor. Il ne combattait pas. La lumière lui en soit témoin, c'était dur, mais il ne combattait pas. Tentant de ne pas penser à tous les pauvres gens morts en tentant de tenir leur position ici même, il observait. Pour cette mission, Matt Cotton avait choisi un endroit idéal. La rivière Mora coulait dans le canyon où il était facile pour les ténèbres de dévier ou d'arrêter son cours. Et elle ne s'en était pas privée. Pourtant, les défenseurs envoyés par Matt avaient fait de leur mieux contre les trois seigneurs de la terreur et les chariens. Grady était furieux contre Cotton. Alors que tout le monde vantait ses qualités de général, il avait eu cette idée stupide. Car enfin, s'il était un génie, pourquoi avait-il chargé 500 braves gens d'un village de montagne d'aller défendre une rivière au Murandi? Bon, une centaine de bras rouges les accompagnaient, mais ça n'avait pas changé grand-chose. Morts eux aussi, ces braves gars avaient seulement tenu quelques heures de plus. Rien d'anormal face à une meute de trollocs et à trois seigneurs de la terreur. Bref, les défenseurs avaient été massacrés jusqu'au dernier. Lumière. Dans ce groupe, il y avait des gamins. Les villageois et les bras rouges s'étaient bien battus, tenant leur position plus longtemps que Grady l'aurait cru possible. Et il avait ordre de ne pas les aider. À présent, il attendait dans l'obscurité, au sommet d'une des falaises du canyon. Alors qu'il se cachait derrière des rochers, à moins de 100 pas de lui, les Trollocs allaient et venaient en portant des torches. Pour voir, les seigneurs de la terreur avaient besoin de ça. Eux aussi étaient au sommet de la falaise, une position idéale pour observer la rivière, devenue en réalité un lac. Avec le pouvoir de l'unique, ils avaient arraché des pans entiers de pierre aux parois, puis érigé un barrage. Une fois la rivière Mora asséchée, les Trollocs, au champ de Myrilor, avaient eu beau jeu de traverser la rivière. Pour détruire ce barrage, Grady aurait eu besoin de quelques secondes. Mais jusque-là, il n'avait pas osé recourir au pouvoir. Parce que Cotton lui avait ordonné de ne pas attaquer, bien sûr. Mais surtout parce qu'il se savait incapable de vaincre 3 seigneurs de la terreur. Et après l'avoir tué, il n'aurait plus qu'à reconstruire le barrage. Caressant une dernière fois la lettre de son épouse, Grady se prépara. Un peu avant l'aube, lui avait ordonné Cotton, il devrait ouvrir un portail avec pour destination le fameux village de montagne. Ce faisant, il trahirait sa présence. Encore un ordre dont il ne comprenait pas le sens. En bas, les eaux du lac avaient recouvert les cadavres des pauvres sacrifiés. Bon, maintenant, tout à l'heure, ça revient au même. Grady prit une grande inspiration. L'aube ne tarderait plus, même si les nuages continueraient à bloquer les rayons du soleil. Il allait suivre ses ordres. Que la lumière le brûle, mais il n'était pas question qu'il désobéisse. Cela dit, si Cotton survivait, il aurait un ou deux mots à lui dire, et pas des louanges. Un type né dans un milieu très modeste aurait dû savoir qu'on ne gaspillait pas des vies. Après une autre inspiration, Grady commença à tisser le portail. Quand le passage fut ouvert, il vit effectivement le village d'où étaient venus les braves gens la veille. Mais pourquoi cette destination? Le bourg avait été vidé de sa population pour former l'unité de défenseurs. Il ne devait pas y rester âme qui vive. Quel nom avait donné Matt au fait? Inderstap? Une foule se rua hors du portail, brandissant des fendoirs, des fourches ou des épées rouillées. Des bras rouges les suivaient, une centaine, comme ceux qui étaient morts ici. Sauf que Grady, à la lumière des torches, vit que c'étaient les mêmes bras rouges. Oui, ceux qui s'étaient battus et avaient péri la veille. Sonné, la chamane se releva et regarda ces braves gens se lancer à l'attaque. Les villageois aussi étaient les mêmes. Les mêmes matrones, les mêmes maréchaux ferrants ou forgerons. Bref, les cadavres d'hier, parfaitement en forme. Grady les avait vus mourir, et voilà qu'ils revenaient sur les lieux de leur décès. Les Trollocs étaient incapables de distinguer un humain d'un autre. Les seigneurs de la terreur, en revanche, reconnurent leurs victimes de la veille. Et ça parut leur faire un choc. Un des trois cria que le grand seigneur les avait abandonnés, puis il bombarda les assaillants de tissage. Les villageois et les bras rouges chargèrent, comme s'ils se fichaient du danger. Alors qu'ils tombaient par dizaines, les survivants parvinrent à sauter sur les seigneurs de la terreur. Avec des outils et des couteaux de cuisine, ils réussirent à avoir leur peau. Le temps que les Trollocs réagissent, l'affaire était réglée. Sortant de sa stupeur, Grady tissa du feu et détruisit le barrage. Et là, personne ne le reconstruirait. Le lac se vida, des trombes d'eau se ruant vers le champ de Myrilor.